La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 54, le podcast Blueprint qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasi, rédacteur en chef de Red Bull Games et PG Sport Canard PC Hardware. Salut Franck.
Salut Yann qui travaille aussi chez Red Bull Esport en tant que pigiste.
Oui, et potentiellement un jour chez Hardware. Potentiellement un jour c'est chez CPCH, effectivement.
Bonjour, on sait jamais. Ce milieu est une mafia, dégoûtante, faite de gens dégoûtants et aux méthodes dégoûtantes. Et pourtant très sympathique et fort adorable parce qu'on embrasse Dandu. J'embrasse mon rédac chef que j'aime.
Oui, et j'embrasse mon rédac chef aussi à qui j'ai envoyé un papier de 17 000 signes aujourd'hui. C'est toi. Bonne relecture, patron.
Cynique, toi.
Bonne relecture, j'espère que tu aimes les hommes à lunettes parce que c'est de ça dont je parle dans.
Ah bah si tu veux, j'ai deux papiers actuellement d'hommes à lunettes. Donc un de toi et un de notre ami journaliste aussi dans Canard PC Hardware, décidément. Un certain omelette.
Mais non seulement mon papier, je suis un homme à lunettes, mais en plus j'écris pour prendre un autre homme à lunettes. Donc
Ça fait un petit peu trop. Il y a un petit peu trop d'entre-soi dans ce podcast. Ne trouvez-vous pas, Monsieur Rieder?
Je trouve. Rendez-vous sur Red Bull France pour le papier qui sortira, je pense, dans quelques jours au moment où vous écoutez ce podcast. Au sommaire de cet épisode, un dossier consacré à l'audio wireless, casque, écouteurs sans fil. On va faire notre petit bilan parce que aussi bien toi que moi, Franck, on a depuis un bon moment un produit qui vient de cette catégorie d'accessoires et on veut faire un petit peu le point. On viendra évidemment sur le courrier, vos questions, vos réactions, le suivi aussi. Ça, ce sera en fin d'épisode, mais tout d'abord, c'est l'heure de notre actualité. Et une fois n'est pas coutume, mon cher Franck, tu veux commencer non pas par un élément de tech, mais par parler par quelqu'un qui parle de tech.
Oui, et cette personne qui parle de tech, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis très très longtemps. Alors on peut ne pas toujours être d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire et qui s'appelle Linus. Linus qui tient le channel YouTube Linus Tech Tips, ainsi que d'autres sous-chaînes qui sont rattachées.
Tech Quickie.
Voilà, Tech Quickie, il a d'autres trucs à côté, il y a d'autres chaînes qui sont plus ou moins rattachées à lui aussi.
Tech Linked.
Il y en a tellement. Mais pas Tech News and Test. Ça,
écoute,
c'est la poubelle.
On peut pas tout avoir.
Mais Linus est canadien. Linus, il a à peu près mon âge, hein, 36-37 ans, je crois.
Il a commencé en boutique spécialisée. Il était un petit peu le gars qui donnait, justement, qui faisait des astuces pour la chaîne de magasins qui vendait, qui est morte depuis, hein, mais qui vendait des accessoires et c'est des ça. Produits technologiques au Canada. NCIX. Donc, c'est comme, c'est comme la série télévisée NCIS, mais vous remplacez le S par le X. Ouh.
Au lieu de Jetro Gips, tu as Jetro Chips.
C'est ça.
J'ai foiré ma vanne. Bravo, Foxman. Et donc, oui, Linus, ça fait. Il a plus de 10 ans sur YouTube, 7 ans vraiment d'explosion avec Linus Tech Tips et toute son équipe. Aujourd'hui, il a fondé le Linus Media Group, donc LMG. LMG est un peu comme Blueprint, puisque LMG propose donc ses émissions, eux, sur YouTube, avec beaucoup de tech, de hardware, de tests. Ils suivent le CIS, ils vont à Taipei donc, pour les grands salons technologiques, ils vont à Hong Kong,
ils couvrent
en Chine. Ils couvrent, ils font beaucoup de coverage, tout à fait. Et à côté de ça, le Linus Media Group est donc un media group qui, eux, propose des services de communication, de gestion, d'implantation et même parfois des conseils d'implantation pour l'Europe et l'Occident en général.
Je me permets d'ailleurs de préciser quelque chose. Quand on travaille, nous, sur justement... quand on travaille, par exemple, avec des marques, avec des clients, avec ce genre de choses, on ne travaille jamais sur de la publicité. On peut donner des conseils en communication, mais on ne travaille jamais sur de la publicité. Si jamais on venait à travailler sur quelque chose qu'on venait à couvrir dans la cartouche Tech2, etc., on en parlerait, on ferait le distinguo et probablement qu'on s'abstiendrait de parler de ça de toute façon. Je suis en train de chercher dans ma tête s'il y a d'autres choses.
Non, le conseil contenu communication, moi j'en fais. C'est du conseil, c'est pas, je travaille pas directement sur des projets de communication. Et si c'est lié à Blueprint, je n'en parle pas dans Blueprint directement pour ma part en tout cas.
Et si on identifie.
Et je pense que c'est la même chose pour toi, Lou, puisque on a les yeux sur les mêmes dossiers.
Exactement. Non, il y a vraiment une séparation importante.
Et les émissions,
chez nous,
oui, c'est ça. Les émissions sont séparées de ce qu'on fait. C'est notre bulle d'air à nous, c'est chez nous.
Et si on
si
nous
des
engage.
Marques veulent acheter de la publicité, elles achètent achète de la publicité dans les espaces de publicité.
Déjà ça, et si on nous engage pour faire du journalisme pour une autre boîte, ça reste du journalisme. Ça peut pas être influencé par justement tel ou tel qui dit « Ah oui, on aimerait bien quand même vendre ça. » Donc oui, vous faites un travail de journaliste, mais parlez-en plutôt positivement ou parlez de ça plutôt que d'autre chose. Non,
ça je fais pas. Ça me fait chier en plus.
Le choix
les OPSP, c'est
reste le nôtre. Beau. Voilà.
Voilà. Et donc Linus est donc spécialisé lui dans la communication, le marketing, sur deux choses. Il fait à une époque, il faisait aussi des sites internet pour certains revendeurs. Et ils font aussi parfois du bêta test et du conseil hardware sur certains modèles, un peu comme le fait Steve Burke. Mais Steve Burke, quand il reçoit du matos, bah, exactement comme le fait CPC, quand ils reçoivent des prototypes, ils font des retours. Tu vois, sauf que Linus, il a travaillé ça dans un plan d'accompagnement. Donc le Media Group fonctionne très très bien.
Et pourquoi on en parle aujourd'hui ?
On en parle aujourd'hui parce que le Linus Media Group aujourd'hui c'est 30 personnes, c'est une à deux vidéos tournées par jour. Et Linus est au bord du burn-out et il commence à penser à prendre sa retraite après 10 ans de YouTube, qui est un métier. Alors beaucoup disent que c'est pas un boulot, mais quand tu dois produire deux vidéos par jour, tous les jours, beaucoup de YouTubeurs arrivent en burn-out au bout d'un moment parce que la créativité, ça demande de l'inspiration. L'inspiration, ça demande d'avoir un peu l'esprit calme. Et quand tu crées une boîte comme celle de Linus où tu gères énormément de choses et tout, il prend plus beaucoup de plaisir à faire du YouTube.
Non seulement tu gères de l'administratif, tu gères le fait d'être un patron, mais en plus tu es la voix principale, la tête principale du truc. Tu apparais dans 2 ou 3 vidéos par semaine, tu apparais dans un live stream par semaine, la plupart du temps, avec potentiellement aussi de temps en temps des événements supplémentaires qui demandent également de la
sur
préparation.
Sur les rushs, c'est parfois sur les rushs comme le CIS ou Taipei ou d'autres trucs, ou le Hardware Expo qu'il y avait autrefois à Hong Kong, c'était 2 vidéos par jour, voire 3 vidéos par jour de reports qui étaient faits sur place, qui étaient montés en suivant et envoyés directement sur YouTube. C'est des périodes de rush qui sont assez intenses aussi, parce qu'il faut quand même voyager partout. Il faut suivre l'actualité constamment et Linus commence à arriver au bout d'un cycle. Oui, questionne plusieurs choses en fait dans la vidéo qu'il a postée donc hier matin très tôt chez nous. Pardon. Linus parle du fait qu'il commence à voir un petit peu la futilité de son travail par moment.
Consumérisme
mis en avant, la pollution, l'impact écologique de la technologie évidemment, et puis le fait qu'il a rencontré un jeune garçon, c'était pas une mauvaise idée en soi comme il le dit, mais ça lui a foutu un pet. Il a participé à un Make-A-Wish, de ce que j'ai compris.
Voilà, un Make-A-Wish pour les gens qui sont pas familiers de ça.
C'est une association américaine, Make-A-Wish, qui existe aussi en France, où des enfants atteints de maladies graves, très graves, souvent en phase terminale ou possiblement condamnés, se voient exaucer le vœu de rencontrer une personne, une célébrité qu'ils admirent. Marc Hamill a beaucoup participé à ça pendant de nombreuses années. Il continue à participer et à soutenir les enfants malades. Linus, c'était sa première fois. Et il a rencontré un garçon de 12 ans.
Il n'a pas pu le rencontrer, justement.
Il devait rencontrer ce garçon de 12 ans.
C'est aggravé au fil des semaines du fait donc il n'a pas pu voyager, il n'a pas pu venir le rencontrer. Il devait lui envoyer des vidéos, mais au moment où il avait sorti son téléphone et il voulait justement enregistrer sa première vidéo pour la lui envoyer, il sentait qu'il n'avait rien à dire et qu'il était carrément vide et qu'il ne savait quoi lui dire.
Il s'est retrouvé complètement bloqué parce que... La confrontation à laquelle il a été, la situation dans laquelle il a été confronté, c'est que Linus, c'est un mec que j'aime bien, qui a un côté entertainer, qui est constant. C'est toujours comme il est pas très grand, il est pas très musclé. C'est le petit gars surexcité toujours qui fait des conneries, qui est le champion pour casser des processeurs à 10 plaques. Linus a un gros problème avec le hardware. Il a tendance à casser des trucs depuis toujours, mais il y a certaines marques, lui envoyer 2 cartes graphiques ou 2 cartes mères, sachant qu'il allait en péter une. Les RP sont tellement habitués, si tu veux, qu'ils envoient les trucs en double. Puis ça les fait mourir de rire parce qu'ils trouvent ça nul. Mais ce côté entertainer, quand tu te retrouves face au poids de la réalité, il a eu du mal à encaisser le truc et il s'est rendu compte de la vacuité de ce qu'il faisait. Alors, c'est pas vain. Là, il le prend comme ça et j'entends très bien sa détresse personnelle aussi. Et le fait que c'est des années de fatigue accumulée. Personnellement, dans la manière dont il parle, je l'ai déjà entendu chez un certain co-animateur plusieurs fois.
Je ne vois pas de qui tu veux parler.
Voilà, co-animateur.
Je ne connais pas du tout ce sentiment de désespoir quand tu t'investis dans énormément de projets créatifs et qui te bouffent dans tous les sens. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Et du coup, ben Linus, il est dans cet état actuellement qui est très compréhensible et qui est au final très humain, de se confronter après près de 10 ans de course à la tech, de course à présenter les meilleurs écrans, de faire des Hackintosh totalement débiles, de monter des serveurs avec 100 téra de stockage, de faire des opérations spéciales, de faire des grands concours d'overclocking avec Steve Burke et Jace2cent, par exemple, et Tech Viking aussi, où ils font des concours ridicules, mais que j'aime beaucoup. Ben, il s'est rendu compte que alors ces trucs-là l'éclataient toujours, mais faire des vidéos tout le temps et bâtir tout ce qu'il faisait sur ces vidéos, c'était moins son trip. Il commence à avoir envie de continuer. Il gère le Media Group, il travaille au Media Group, c'est pas un problème. Il a plus de 30 employés aujourd'hui, mais il a l'impression que ce qu'il fait a peut-être un impact plus nocif que ce qu'il pensait. Et donc du coup, il y a une grande réflexion qui s'est engagée de son côté sur l'impact écologique de la technologie, cette course, comme tu disais, au consumérisme de changer de téléphone tous les ans, changer de PC portable tout le temps.
Changer les composants de sa machine également.
Changer les composants de sa machine. Moi, je le comprends. Pour le coup, c'est quelque chose que je n'aime pas de mon côté. C'est-à-dire que j'aime pas changer mes composants tout le temps. Je pourrais pas. Déjà parce que j'ai une flémingite de ouf de démonter. Et de deux, la plupart des gens, la plupart des auditeurs qui viennent me voir pour les configurations, des auditeurs au Tech2, des gens qui savent que voilà, je fais des configs, ils viennent me voir pour me demander des machines qui durent.
Tu fais tellement de configs dans ta vie qu'en fait, c'est comme quand tu vas au supermarché après avoir mangé, t'as plus autant l'appétit.
Mais ça, je l'avais pas déjà, hein, si tu veux. Déjà, changer la RAM de mon PC, c'est un enfer. Mais tu vois, je pourrais totalement, sans aucun souci, changer ma carte mère, mon processeur et ma RAM. Parce que j'ai un 8700K avec 32Go de DDR4 en 2666. Et revendre ça à un bon prix, parce que la machine a 1 an et 2 mois, donc ces composants-là sont récents et sont encore sous garantie. Et me racheter un combo 3700 ou 3800X avec une bonne carte mère et autant de RAM, pour moins cher du coup. Ou pour à peu près le même prix, et donc upgrader mon PC. Je vois pas pourquoi j'upgraderais mon PC. Comme quand je fais une config pour les gens, je fais des configs plus ou moins grosses, les plus petites, je les fais dans les 700 euros. C'est difficile d'aller en dessous quand même, hein, parce que les processeurs en dessous, c'est pas forcément super intéressant, sauf si c'est du full bureautique. Ouais. Mais et je vais sur des PC à plus de 3000 euros. Il y en a un de nos auditeurs qui se reconnaîtra, que je ne nommerai pas, qui est venu me voir au début des soldes avec sa liste et qui s'en est embarqué pour plus de 3000 balles parce qu'il a pris un écran avec.
Félicitations, c'est lui qui fait fonctionner l'économie cette semaine.
Voilà, lui, il a fait fonctionner le consumérisme, mais ça faisait des années qu'il n'avait pas changé de machine. Et il sait par là que, avec la config qu'on a choisi ensemble, les équipements, il ne va pas y toucher pendant 5 ans, 6 ans. Et c'est pas beaucoup, j'ai envie de te dire. La technologie avance beaucoup moins vite qu'elle n'avançait dans les années 2000-2010, parce qu'un PC dans les années 90, au bout de 2 ans, il était déjà rincé. Tu dépensais 10 000 balles quasiment tous les 2-3 ans. Tu pouvais pas changer facilement tous les composants, parce qu'il y avait des changements de format, des changements d'alimentation. Fallait au moins changer carte mère, processeur, RAM. Les disques durs, bon, on va pas en parler, c'était ridicule. T'imagines qu'en fin des années 90, les gros disques durs, ils faisaient 100 gigas, peut-être 120 gigas. Et encore, il coûtait une fortune. Aujourd'hui, il y a cette question écologique qui commence à vraiment prendre part à la discussion technologique. Moi, ça m'intéresse, parce que j'aime le hardware, certes, mais à un moment, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de changer de portable tous les ans, on n'a pas besoin de changer de tablette tous les ans. J'ai acheté une tablette, je sais que je l'ai pour 5 ans. Ma Shield, je l'ai depuis... Tu te rappelles quand j'ai acheté la Shield ou pas ?
Non, mais c'était il y a très longtemps.
Je crois que je l'avais depuis 2 ans quand on a commencé Tech2.
C'est possible.
Donc je dois l'avoir depuis au moins 2000. Je dois l'avoir depuis 2016, par là, 2016 ou 2017.
Non, donc, on a commencé Tech2 en 2017. Donc,
on a lancé Tech2 en 2017 et je l'avais déjà. Donc j'ai dû l'acheter fin 2016.
Je sais pas.
Ou début 2017. Je crois que j'ai acheté à Noël 2016 par là, tu vois. Donc ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. C'est la patronne qui l'a maintenant. C'est ma mère qui joue à Puzzle Bubble comme une putain de droguée dessus.
Mais très bien.
Voilà. Et du coup, c'est des machines qui durent. Et on a perdu dans cette course consumériste, j'ai envie de dire, le fait de fabriquer des trucs qui durent. Ne serait-ce qu'au point de vue solidité, parce qu'il faut amortir les coûts et donc du coup fabriquer moins cher, fabriquer notamment en Chine ou aux Philippines ou en Thaïlande. Et du coup, ben, ces trucs-là, ils s'abîment et ces trucs-là, ben, on ne peut pas les recycler proprement pour l'instant pour la plupart des trucs. Donc on les jette. Donc Linus, il a été percuté par tout ça. Je pourrais être un peu sassy et dire un peu en retard, parce que ça fait un moment qu'il y a cette question, on en a discuté dans l'émission, on en a discuté ensemble plusieurs fois aussi. Mais Linus, aujourd'hui, c'est un pan de la tech YouTube qui est sur le point peut-être de s'arrêter, ou du moins d'amorcer une transition où il sera moins derrière la caméra, enfin devant la caméra, et beaucoup plus derrière à faire autre chose et essayer peut-être de retrouver un équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite.
Après le stream, il a publié sur Facebook quelques heures après en disant j'ai vu vos messages, vous inquiétez pas, je vais bien. C'est vrai qu'il vraiment était empreint d'émotion, il pleurait sur le stream.
Et oui, c'est normal. À un moment, il faut aussi parfois un peu lâcher les vannes, que les gens ne font pas toujours, ce qui est extrêmement nocif. Les hommes ont droit de pleurer, n'oubliez pas.
En tout cas, vous pouvez retrouver l'archive du stream, en tout cas si elle n'est pas retirée. Ou
non, il n'a pas retiré.
D'ici la publication de cet épisode, en tout cas.
Je ne pense pas qu'il la retirera, au contraire, ça amorce une discussion qui est saine et où il parle de sa famille aussi, le fait que maintenant, il est marié, il a 3 gamins. Donc, c'est intéressant, vraiment. C'est une discussion intéressante sur les changements de la tech, sur le changement du coverage aussi de la tech.
Mais d'ici là, donc, vous retrouverez le lien normalement sur la page de l'épisode et dans la description, dans toutes les bonnes applications de podcast.
Et toi, Yann, parle-moi de météo.
Oui,
parle-moi de 5G.
Continuer de parler d'environnement, en vérité, même si ce n'est pas forcément l'environnement en termes de changement climatique, mais l'environnement de la façon dont on le perçoit et on le mesure et on le devine, on le planifie. Alors, on ne le planifie pas en décidant ce qui va se passer, mais plutôt en regardant ce qui devrait se passer en effectuant un certain nombre d'observations. Eh bien, les professionnels de la météo, les météorologistes, sifflent la fin de la récré concernant la 5G et surtout tirent le signal d'alarme, puisque il y a de très 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 fortes suspicions, voire même une certaine assurance, que la 5G complètement déployée posera de gros problèmes pour justement déterminer quelle sera la météo de manière précise, y compris dans un court laps de temps, ce qui non seulement est important en général, parce que c'est pratique de savoir s'il va pleuvoir, neiger, s'il fera chaud, froid, etc., mais en plus, dans des zones qui, par exemple, se prennent des blizzards, se prennent des tempêtes, se prennent ce genre de catastrophes potentielles à venir, ça peut faire la différence de savoir si la catastrophe arrive dans 3 jours ou dans 4, si on peut préparer ou si c'est l'état d'urgence tout de suite, ce genre de choses. Et c'est d'autant plus gênant que simplement les fréquences qui vont être utilisées par la 5G recoupent un petit peu, perturbent, vont interférer avec des
fréquences. Elles sont à 24 000 Hz. Sont à 24 000 Hz et la fréquence des particules d'eau tels que les satellites géostationnaires de météo les mesurent, ils mesurent des ranges de fréquences qui vont de 23 200 à 23 800 Hz.
Exactement, afin c'est de très savoir, très proche.
Donc c'est extrêmement proche, donc il va y avoir perturbation, donc on va peut-être perdre la météo précise, lol.
On va retourner en arrière de potentiellement plusieurs décennies en termes de 50 précision.
Ans.
Voilà, et ça c'est assez catastrophique, je trouve. Ça devrait être une des raisons pour lesquelles il faudrait se poser des questions importantes vis-à-vis de l'impact de la 5G. Encore une fois, c'est une technologie entre le moment où des grands groupes technologiques ont commencé à dire on va la mettre en production, on va les installer, et les gouvernements ont fait on va commencer à acheter tout ça pour mettre tout ça en place. Et aujourd'hui, un laps de temps assez court, je pense qu'il aurait fallu plus d'expérience, plus de recherches notamment autour de cette question météorologique et plus de responsabilités de la part des différentes autorités, notamment gouvernementales, mais aussi, soyons honnêtes, de la part des différentes entreprises de télécommunications qui foncent les yeux fermés là-dedans.
Il y a
différents enjeux. Bien sûr, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de souveraineté nationale pour toutes les entreprises qui souhaitent battre Huawei sur ce terrain.
Alors, même pas, parce que toute la technologie quasiment posée, par exemple en France, c'est essentiellement du Huawei pour le bordel.
En France, oui, mais c'est pas le cas pour tous les pays, c'est ce que je voulais dire.
Ah non, mais c'est pas tant. Mais la technologie, elle viendra de toute façon, en majorité, elle vient de Chine. Même si les entreprises sont gros hashtag concurrente, c'est quand même des entreprises chinoises. Et le premier enjeu de la 5G et des applications 5G, c'est étrangement la surveillance. Puisque la 5G, il y a une bande passante, un champ d'action plus restreint que la 4G. Donc la 5G fonctionne moins bien que la 4G en termes de distance. Il faut être plus proche, donc il faut mettre plus de pylônes. Elle permet surtout d'avoir une extraction d'informations qui est meilleure, un ciblage physique qui est 100 fois meilleur, et d'avoir une précision sans passer par le satellite qui est de l'ordre du centimètre, voire moins. Donc du coup, ce qui intéresse beaucoup de pays, c'est de pouvoir traquer notamment les militaires. Hein, on va pas se leurrer. C'est un truc qu'utilisent énormément les militaires, c'est pouvoir pister n'importe qui sur la planète avec la 5G au centimètre près.
Oui, par exemple, je prends le département fédéral en Suisse de justice et police, le DFJP, qui le 16 janvier 2020, donc il y a quelques jours au moment où on enregistre ce podcast, il y a 8 jours, même pas une semaine, a publié une note intitulée « Surveillance des télécommunications en route vers la 5G » qui dit notamment « Il s'agit de mettre en place les conditions pour la surveillance de services de communication mobile fondés sur la 5G et pour les nouveaux composants du système SCPT. Les différents types de mesures de surveillance sont détaillés dans l'encadré. » Donc dedans, on a surveillance rétroactive, surveillance en temps réel, recherche de personnes condamnées, recherche en cas d'urgence, renseignements simples et renseignements complexes.
Voilà.
Donc c'est le genre de choses aussi qu'il faut garder en tête quand on déploie une nouvelle technologie. Effectivement, ces usages potentiellement néfastes pour les libertés, comme Franck vient de nous en parler, mais aussi l'effet qu'elle peut avoir sur l'environnement ou sur notre compréhension de l'environnement, comme la météorologie. Il ne suffit pas, à mon avis, de régler les problèmes, de se dire, bon, est-ce que ça a un effet sur le corps humain ou non, sur le cerveau, sur le développement humain, des jeunes enfants en général, pas loin des maisons, pas loin des habitations. Ça, c'est une première question qui est également importante à traiter à chaque fois qu'on déploie ce genre de choses. Mais l'autre question qui est importante à traiter, bah, c'est celle-ci. C'est à quoi ça sert et qu'est-ce que ça limite dès lors qu'on la met en place. Avec le numérique, avec Internet, on est souvent dans l'idée que c'est toujours additif. Qu'avec ces technologies-là, qu'en passant bah, simplement à travers les ondes, à travers, à travers la planète entière sans fil, finalement, on ne retire rien, on ne gâche rien, on ne pourrit rien. Cette préconception-là, elle peut vachement s'effriter dans ce genre de cas et avec ce type de problème. Donc clairement, à garder un œil là-dessus. En tout cas, pour toutes les zones politiques, moi je sais par exemple, il y a certaines communes dans le canton de Genève, là où j'habite, qui ont décidé de bannir temporairement la 5G. Bah, les opérateurs vont quand même proposer de la 5G en upgradant les antennes 4G existantes et en ne dépassant pas certains plafonds.
Oui,
tout simplement.
Oui, parce que la 4G peut être upgradée. Moi, par exemple, sur ma zone, j'ai du 120-130 mégas en pointe, ce qui est fabuleux. Hein. C'est pour ça que j'ai commandé une box 4G, parce que mon ADC est en train de mourir. Et la fibre est dans mon quartier, mais il y en a pour quelques mois encore. Mais tu peux upgrader. Là, ils font des locks. Bah, après, chez toi, tu es j'ai plus le nom de ton opérateur.
Alors, à la maison, c'est Swisscom, et sur mon mobile, c'est Salt.
Ah, c'est Salt, c'est ça, Salt, le sel. Voilà, tu es opéré par le sel. Et tu as un magnifique forfait 4G illimité qui existe donc en Suisse. Ça n'existe pas chez nous, sauf si tu es abonné Free. Parce que Free est le seul à proposer à ses abonnés et non pas aux nouveaux abonnés. C'est-à-dire, si tu es abonné chez Free, que tu as déjà une box chez Free, tu peux avoir un forfait 4G illimité pour une quinzaine d'euros. Les autres proposent de la data limitée. Donc, ils appellent ça des forfaits limités. Pour Red, SFR, en général, c'est 100 gigas. Orange, c'est 150 gigas. Bouygues, pareil, je crois que c'est 100 ou 150 gigas. Et les seuls, après, à proposer des box, les box, elles sont lockées en moyenne à 200 ou 250 gigas de data. Et elles sont lockées. Alors, j'adore parce que SFR se targue d'avoir le label d'aide à la France, le label français d'aide au développement de l'Internet grande vitesse partout. Par contre, si t'as juste 7 mégas 50 au lieu de 8, bah ça suffit. Sauf que quand. Donc, du coup, le mec, il te fait au téléphone. Non, non, désolé, vous pouvez aussi regarder la télé. Mais j'ai pas la télé, je m'en bats les couilles de la télé. Je veux de la vitesse. J'en ai marre de passer 6 heures à uploader des trucs. Oui, mais vous pouvez regarder la télé. Va bien te faire mettre. Donc, du coup, j'ai acheté une box 4G. On en parlera quand je l'aurai reçue. J'ai commandé une box 4G chez Énergie Mobile pour avoir de la 4G et qui n'est loquée qu'à 100 mégas, alors qu'il pourrait, tu pourrais avoir beaucoup plus. Après, c'est toujours comme tu disais, il faut upgrader les antennes et augmenter la bande recevable et envoyable. Mais une fois que tu as augmenté la bande passante, ben, tu peux envoyer du 250 mégas sans aucun souci, quoi. Ce qui suffirait déjà en 4G à beaucoup de monde. Déjà, si les gens pouvaient tous atteindre 100 mégas, je pense qu'il y a un paquet d'abonnements Internet qui se barreraient. Hein,
Effectivement, il y a un paquet de plus de gens qui seraient sur Twitch. Très bien. Merci, Franck. On passe tout de suite au dossier. Et aujourd'hui, le dossier est consacré à l'audio sans fil, écouteurs, casques. On a chacun expérimenté la chose pendant une période plus ou moins longue. Pour moi, ça fait un bon moment maintenant. Et Franck, tu as des questions à me poser.
Ah oui, Yann, parce que toi, tu as des AirPods depuis, ça fait plus de 2 ans maintenant.
Oui.
Est-ce que tu les utilises encore? Et si oui, pourquoi?
Alors, ils sont devant moi et je tiens déjà à vous faire profiter de quelques petits effets sonores. Donc là, je l'ouvre et je referme la petite boîte.
Ah. Spoiler alerte, hein, il les a tout le temps sur lui.
Et ensuite, regarde, regarde, je vais en glisser un. Il y a aussi un aspect un peu magnétique à la chose quand tu remets un dedans.
Oh, glisse-le. Écoute.
Voilà.
Oh oui, glisse-le. Et oh, le petit aimant.
Et je le remets l'autre. Par contre, je vous dis tout de suite, les boîtes d'AirPods deviennent dégueulasses très très vite.
Oui, j'ai vu ça, c'est horrible. La moindre graisse des doigts fait un truc noir sur le truc.
Je sais pas si c'est que de la graisse des doigts. Il doit y avoir d'autres choses qui viennent.
T'as la peau morte, c'est tes mains qui suent.
On a deux chiens et un chat ici. Donc,
ah oui, accessoirement, oui, t'as la poussière aussi. Non, mais c'est la. Oui, d'accord. C'est le blanc immaculé, englossi, c'est dégueulasse. Tout le monde le sait.
De l'extérieur, il reste bien parce qu'en gros, c'est la poche du pantalon qui va continuer à polir l'extérieur. Oui. Mais l'intérieur de la boîte, par contre, c'est une autre histoire. Déjà, en préambule, je tiens à préciser. J'ai le tout premier modèle d'AirPods, donc je n'ai pas la recharge sans fil, je n'ai pas la légèrement meilleure batterie, je n'ai pas non plus D-Siri programmée dessus. Et ah,
c'est 2017 du coup. C'est 2017 du coup.
Exactement, mais je les ai achetés un petit peu plus tard. Je les ai achetés peu avant la révision qui a notamment amené le boîtier de recharge sans fil.
D'accord.
Est-ce que je les utilise encore? Ça, c'était ta question. Et pourquoi?
Oui.
Alors, est-ce que je les utilise encore? Oui. Un à deux jours par semaine.
Sur toi.
Je les ai toujours sur moi, je les ai très souvent sur moi. Bah, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que cette petite boîte d'AirPods, elle se glisse à merveille. Et malheureusement, ça parlera plus aux hommes qu'aux femmes, parce que les femmes ont toujours des poches de merde.
Oui.
Car la mode est.
La mode est raciste. La mode est misogyne.
L'industrie du textile est misogyne de ce côté-là, c'est une catastrophe. Oui. Enfin,
faites des grandes poches pour les meufs, elles vont kiffer comme nous d'avoir des grandes poches.
C'est juste. C'est pratique.
Surtout qu'on a les mêmes téléphones. Donc du coup, ça rentre pas dans les poches des meufs.
C'est débile.
Et puis sortir sans sac, c'est vachement bien. Il y a plein de meufs. Moi, j'ai plein de copines qu'on achète des pantalons de mecs. Parce qu'elles sont un peu grandes et tout. Elles achètent des pantalons de mecs qu'elles font retailler ou qu'elles recousent elles-mêmes. Et puis, elles ont des grandes poches.
Les poches, c'est comme l'avortement. Je suis pour le choix. Donc
ah, moi aussi. Ça tombe très bien.
Ça tombe très bien. Et là, on a perdu 20 auditeurs.
Eh ben,
c'est pas
écoutez,
grave.
Tant pis. De toute façon, si ce sont des auditeurs et qu'ils ont un avis là-dessus, c'est pas leur corps, c'est pas leur choix.
C'est. Après, tu rentres dans d'autres questions. Et on est allé trop loin déjà. Très bien.
Non.
Donc, mes AirPods, ça fait 2 ans que je les ai, 1 à 2 jours par semaine. Pourquoi est-ce que je les utilise pas constamment? Eh bien, c'est un problème de batterie. Quelle surprise.
Ah oui, t'as 5 heures de batterie, si je dis pas de bêtises?
À la base, oui. On te promet 5 heures de batterie sur chaque AirPod, ce qui est pas mal, franchement.
Oui, vu la taille, on est d'accord, vu la taille, c'est vachement bien.
Et la première année que tu les as, ouais. Alors évidemment, quand t'appelles, quand t'es en mode FaceTime ou appel téléphonique, ou Discord, ou Slack, audio...
On fait beaucoup de FaceTime audio.
Ou Skype, ça va se décharger plus vite. C'est normal, parce qu'en plus de recevoir le son, il va également l'envoyer dans l'autre sens, et il va le faire avec le moins de latence possible. Contrairement au moment où il écoute de la musique, où il te passe le son d'un jeu, où il te passe le son d'une vidéo, où là, par contre, ce qu'il va faire, en tout cas pour la musique et la vidéo, c'est simplement décaler l'audio et la vidéo sur l'iPhone, l'iPad, etc., histoire de synchroniser avec le petit délai que tu vas avoir dans les oreilles. Donc du coup, là, il n'a pas besoin d'utiliser une latence courte, il n'a pas besoin de jouer des petites astuces. Tandis que quand vous appelez avec un AirPod, latence courte, ça prend plus de batterie et la qualité de l'audio est plus faible pour pouvoir permettre encore une fois cette plus grande rapidité entre les AirPods et l'appareil qui vous sert à appeler, que ce soit un téléphone, une montre connectée ou une tablette, ou même d'ailleurs un ordinateur qui soit portable ou de bureau. Voilà, c'est compatible avec toute la gamme de produits Apple. Tout ce qui peut lire un média d'une manière ou d'une autre chez les produits Apple sont compatibles avec les AirPods. Et donc oui, ces 5 heures-là qui nous sont promises, plus 24 heures de recharge dans le boîtier.
Tu as la recharge rapide sur ton boîtier ou pas?
De recharge rapide, non, c'est un câble Lightning tout bête.
D'accord, non, parce que je croyais que c'est dans le nouveau, alors que tu as la recharge rapide en 15 minutes, tu as 3 heures de batterie sur les AirPods.
Non, si, il y a la recharge rapide dans ce sens-là. Le boîtier lui-même charge les AirPods assez rapidement quand ils partent à vide, ça c'est clair.
Ce qui est plutôt rapide.
Ce qui est plutôt rapide, le problème, c'est que ces batteries-là vieillissent mal et surtout ne vieillissent pas logiquement. Je les écoute, je les utilise les deux simultanément 99% du temps et pourtant, mon oreille droite peut tenir, on va dire, 2 heures, 2 heures et demie, si c'est que de la musique, des podcasts, de la vidéo, etc. Et mon oreille gauche, mon AirPod gauche, lui, tient moins d'une heure. pourquoi,
mais t'en avais déjà un qui était mort.
Je ne sais pas, mais voilà. Alors effectivement, le truc que je me dis, c'est que à un moment, il y en avait un qui était tombé sur le pavé, que je suis allé faire changer. Je me souviens plus lequel c'est, mais je parierais que c'est le droit.
C'est le droit.
Le droit, c'est le droit, ouais, est plus, oui, plus. Mais même si c'est le cas, même si c'est le cas, vous allez assez vite remarquer qu'il va y avoir un certain niveau de disparité entre les deux. Au bout d'un certain
temps. En volume ou en charge ?
En termes de charge. En termes de volume, c'est nickel. Pour peu qu'ils ne se prennent pas un jeton, c'est nickel. Mais d'accord, en termes de charge, il va se décharger assez inéquitablement au bout d'un certain temps. Autre chose que j'ai remarqué, ils sont instables quand il fait froid. Quand il fait 10, 5, 0, moins 5 degrés dehors, vous allez avoir,
c'est normal,
des petites surprises. J'ai évidemment une batterie qui part plus vite, mais aussi parfois une connexion Bluetooth qui fait « Ah bah finalement, je n'existe plus, au revoir !»
Je pense que c'est un problème d'alimentation, parce que les piles qui sont donc intégrées dans les AirPods sont des piles de montre, hein, on va pas se mentir, c'est des petites piles de montre qui doivent être mises quelque part dans la base. Ou par là, possible, parce que c'est cylindrique, c'est pas très gros. Il doit y avoir peut-être deux ou trois mini-piles empilées pour avoir 5 heures d'autonomie, donc c'est pas énorme. Et du coup, ben, ça fonctionne pas bien sous les basses températures. Elles ont une température de fonctionnement qui doit être de peut-être 5-6 degrés jusqu'à moins quelque chose. Mais quand tu les as pendues aux oreilles avec le vent qui tape dessus, le corps étant en plastique assez fin, ben, ça fait frigo. Ça fait frigo, et si pour peu qu'il y ait un peu de condensation à l'intérieur, c'est foutu, quoi.
Je tiens à dire quand même un truc qui est à leur crédit encore aujourd'hui, le confort d'avoir les réglages sur les embouts, en gros sur la petite tige qui sort de l'oreille, c'est très chouette. Alors, on peut le configurer, il y a trois réglages différents qui sont possibles, donc quatre réglages différents qui sont possibles. Soit vous programmez, donc chaque oreille peut être programmée individuellement pour invoquer Siri. Vous appuyez deux fois pour invoquer Siri, faire play ou pause. Là, encore une fois, vous appuyez deux fois pour soit faire play si c'est en pause ou faire pause si c'est sur play. Ou alors dire je saute en avant ou je saute en arrière. Ce que j'ai tendance à faire moi, parce que je trouve ça plus pratique, c'est d'avoir sur l'oreille gauche play pause et sur l'oreille droite sauter à la chanson suivante, ce qui permet de passer de l'une à l'autre assez facilement. Je pense que c'est des bons réglages à avoir. Ensuite, évidemment, dans les différentes applications, il y a parfois des réglages un peu plus granulaires à faire. Par exemple, dans Overcast, vous pouvez dire est-ce que le saut en avant, ça correspond à dire avance 10 secondes ou avance au prochain podcast. Donc là aussi, choisissez un petit peu le réglage qui vous convient le plus. Mais ce genre de raccourcis-là, qui sont aussi possibles avec des télécommandes sur des écouteurs ou des casques filaires, hein. Vous avez souvent ce petit embout en plastique avec des petits boutons dessus pour vous permettre de le faire. Mais c'est quand même bien confortable, et de ne pas avoir à sortir autre chose, c'est à mon sens assez pratique.
Du coup, on en a déjà un petit peu abordé, mais à tes yeux, est-ce que ça vieillit bien?
Alors,
pour le prix,
on l'a dit sur la batterie, oui, pour le prix, effectivement, puisqu'on est sur quasi 200 francs, quasi 200 euros de base. Est-ce qu'ils ont bien vieilli sur la batterie? Je crois que c'est clair, non. Ils sont encore utilisables, mais ils sont uniquement utilisables, on va dire, soit à la maison, soit pour de courts trajets dehors, et si possible quand il fait pas trop froid. Ils se déchargent assez vite quand il y a des appels. Enfin, je veux dire, ils servent quasiment plus à rien en termes d'appels, parce que là, ça part encore plus vite. Je m'en sers plus dans ce cas-là. Je sors simplement une paire d'écouteurs normales, parce que si c'est pour être en panique et devoir les recharger un peu un par un pendant l'appel ou ce genre de choses-là, j'ai pas besoin de jongler pendant que je suis en train de réfléchir à autre chose au téléphone. Donc c'est pas la peine. Il y a quand même le confort de ne pas avoir de câble. C'est bête, hein, on parle de l'audio sans fil, mais quand même, ça change la vie. Quand on vit, par exemple, avec un sac à dos, qu'on le met, qu'on l'enlève, qu'on le met, qu'on l'enlève, qu'on voyage, qu'on se déplace beaucoup, qu'on va dans des transports publics et du coup, on déplace son sac pour pas écraser ce qu'il y a dedans. Ne pas avoir à faire toute la gymnastique de faire en sorte de ne pas prendre le câble soit dans une porte, soit dans un accoudoir de siège, soit dans son propre sac, ça change quand même la vie. Hein. Faut être honnête, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Pareil au niveau du son, de mon expérience, alors je suis quelqu'un qui n'a pas payé beaucoup d'argent au moment de s'acheter des écouteurs filaires. Pour les écouteurs, contrairement au casque, je mets une somme assez faible dedans, et du coup j'ai une expérience qui est vraiment bas de gamme en ce qui concerne les écouteurs en général. Pour moi, c'est les écouteurs qui ont le meilleur son.
Le son est excellent dessus.
De tous ceux que j'ai pu essayer. Dernière chose, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais mon expérience en termes de maintien dans l'oreille est excellente. Je n'ai, que ce soit en courant, en marchant, etc., que très très, mais alors très rarement eu l'expérience qui tombe de mes oreilles. Et quand c'est le cas, c'est quand je porte par exemple une écharpe extrêmement grande, tellement grande qu'elle me va jusqu'aux oreilles. Elle est portée de manière un peu chelou. C'est quand j'enlève un chapeau ou que j'enlève un t-shirt, etc. Là, je prends le risque qu'il tombe. Ça, c'est la seule possibilité.
Un chapeau, tu enlèves ton chapeau mou de journaliste.
Et puis surtout, c'est extrêmement confortable parce que quand vous les avez dans les oreilles, vous pouvez les avoir là-dedans pendant très longtemps. La forme, en tout cas, n'irrite pas l'oreille, n'est pas désagréable sur une longue durée. Vous pouvez entendre le son qui vient autour de vous, il ne bloque pas le son, et ça c'est très utile quand par exemple quelqu'un veut vous dire quelque chose, vous faites vite pause et vous pouvez tout de suite entendre, vous n'avez pas besoin de jongler 15 000 fois. Le petit tour de magie de retirer pour mettre en pause et de remettre l'AirPod pour continuer la lecture, qui d'ailleurs est désactivable si c'est un fonctionnement que vous n'aimez pas. Je trouve également que c'est agréable, même si au final, une fois qu'on retire et qu'on a l'AirPod en main, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a deux possibilités. Soit on va le remettre dans l'oreille une demi-seconde plus tard, ok, mais dans ce cas-là, le cas d'usage, il est un petit peu limité. Soit on va le remettre dans sa boîte. On n'a pas envie de laisser traîner l'AirPod quelque part sans charge, ou de se prendre le risque d'avoir une éclaboussure d'eau, ou de tomber par terre, ou ce genre de choses. Donc en vérité, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir le retirer et de pouvoir entendre ce qu'on vous dit et de pouvoir le remettre et la lecture reprend. Mais en vérité, il n'y a pas 15 000 choses à faire avec un AirPod en main, si ce n'est le remettre dans sa boîte ou le remettre dans son oreille. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et puis, est-ce qu'ils ont bien vieilli du côté de la connexion ? Ça, c'est vraiment un point central sur la promesse des AirPods, c'est-à-dire vous allez les synchroniser assez facilement avec votre appareil Apple et ça va se connecter très facilement à chaque fois que vous les sortirez. 9 fois sur 10, quand c'est sur le dernier appareil que vous avez utilisé, ça fonctionne à merveille. Vous le branchez, vous entendez un petit drelin dans vos oreilles, c'est connecté, c'est parti, vous lancez la lecture. Vous pouvez même directement double tap sur l'oreille si jamais vous avez programmé le play pause dessus et ça reprend la lecture de ce que vous aviez par exemple sur les haut-parleurs ou sur un autre casque. C'est génial. Une fois sur 10, ça veut pas. Et il va falloir le resynchroniser et c'est un peu compliqué. Et quand vous voulez passer d'un appareil à l'autre, bah là aussi, vous allez le sélectionner sur un nouvel appareil. Vous allez dire, bah tiens, voilà, j'étais sur mon iPhone, maintenant sur mon iPad, je te dis, toi, AirPod, synchronise-toi maintenant, passe là-dessus en appuyant sur l'écran de l'iPad en disant, bah voilà, c'est la source que je veux, c'est ça que je veux utiliser pour entendre maintenant, c'est mes AirPods et pas les haut-parleurs de l'iPad qui étaient précédemment connectés à autre chose. Là aussi, ça marche. Parfois, ça prend plus de temps pour se connecter, le risque d'échec, on va dire, est plus grand, et le risque de petite gabegie, si jamais vous avez la mauvaise idée à la fois de manipuler l'appareil qui l'avait précédemment synchronisé, l'AirPod, et l'appareil qui devrait l'avoir ensuite pour votre nouvel usage, pour par exemple, voilà, je veux maintenant connecter mon iPad pour écouter une vidéo sur YouTube avec. Il peut y avoir parfois de la confusion si vous utilisez les deux appareils et si vous changez les paramètres de son des deux appareils en même temps. Ils peuvent un petit peu flipper. Ça, en tout cas, c'est mon expérience avec, je le répète, la première génération. Ça a peut-être changé avec les générations suivantes, sachant que le chipset, les puces qui sont à l'intérieur est un petit peu différent et potentiellement un peu plus habile. Voilà.
Question suivante, Yann, parce que ça, c'est la grosse question.
Oui.
Avec le recul, est-ce que tu en rachèterais ?
Non.
Voilà. je suis étonné là-dessus, d'ailleurs.
Et Dieu sait que je les aime, vraiment, et Dieu sait que je les ai aimés. Mais pour moi, c'est un niet pour trois raisons plus ou moins importantes. Premièrement, effectivement, écologiquement. Des batteries qui partent aussi vite, un appareil qui perd 50% de son autonomie en 2 ans, c'est un gros problème. Écologiquement, c'est un problème parce que bah, pour les remplacer, pour changer la batterie, ça va vous coûter cher. Ça va pas vous coûter le prix des originaux, mais ça va pas non plus vous coûter 30 balles d'un premier angle. D'un deuxième angle, qu'est-ce qui va se passer ensuite quand vous allez les remettre à Apple et que vous allez les faire changer ? Ils vont probablement finir dans du recyclage, dans du tri, c'est-à-dire assez mal trié, envoyé je ne sais où de par le monde, et au final s'ajouter à une pile de batteries très moyennement recyclées, incinérées dans certains cas, perdues dans des bennes à ordures dans d'autres. L'empreinte écologique de ce genre d'appareil-là est déplorable. Là où, y compris sur certains appareils faits par Apple, hein, qui sont pourtant assez compliqués à réparer ou à recycler, il y a une traçabilité un peu plus grande et surtout une durée de vie plus importante. Dans le cas des AirPods, c'est pas du tout ça, tellement encore une fois le produit est miniaturisé et n'est pas pensé pour durer et n'est pas pensé pour avoir des batteries remplaçables ou à longue durée d'usage année après année. La batterie, pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est mon deuxième point. Non seulement écologiquement, c'est un problème, mais en plus, quand je fais un achat, que je chope un objet technologique, pour moi, s'il est sans fil, s'il fonctionne de lui-même sans avoir besoin d'être constamment branché à une source d'électricité, il a besoin d'avoir une autonomie importante. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis quelqu'un pour qui justement l'autonomie en général est un concept clé, est un enjeu clé. Pour moi, ça, c'est une condition bloquante et c'est un très mauvais précédent. À moins de voir Apple, encore une fois, faire bien mieux au niveau écologique sur cette question-là et bien mieux au niveau autonomie, ça va pas. Et puis, alors c'est pas de la faute d'Apple, c'est pas de la faute des AirPods, c'est clairement de la faute de Nintendo, mais je peux pas brancher ma Switch dessus parce que la Switch ne gère pas les casques Bluetooth. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que devoir constamment jongler entre machin, truc, etc. Je préfère encore jongler avec un casque, avec une prise jack, que devoir jongler avec du Bluetooth qui, de toute façon, n'est pas compatible. Certes, certains petits malins ont créé, du coup, des petits tétés, des petits adaptateurs qui vont se brancher sur le port jack et qui vont ensuite émettre du Bluetooth qui peut être reçu par les AirPods ou tout autre casque Bluetooth. Mais j'ai pas envie de me trimballer avec ce genre-là d'appareils très frankensteinien finalement dans leur approche. C'est monstrueux de devoir avoir à ajouter ça à sa console pour pouvoir avoir un casque Bluetooth connecté. Pas pratique, des chances de le perdre. Là aussi, potentiellement en termes d'autonomie, ça peut causer un problème. Donc, là aussi, c'est le troisième point où ça ne va pas. Et donc, pour moi, de manière générale, c'est non.
Et du coup, qu'est-ce que tu prendrais d'autre à la place?
Quelque chose qui gère mieux de la batterie, voire même quelque chose qui est directement branché en câble, hein, faut être très clair, quelque chose qui n'ait pas besoin d'une batterie derrière pour fonctionner. Je pense qu'à terme, là actuellement je vous parle et je t'entends Franck à travers un casque qui est un casque un peu premier prix parce que mon casque très très cher et très très bon de l'époque a rendu l'âme il y a maintenant quelques mois. C'est RT6, c'est triste, il a duré plusieurs années, il a fait beaucoup de voyages à Paris.
Il y a des promos sur les
Et je viens d'être payé, je sais aussi. Ça va venir. Ça va venir. Il faut que je prenne une décision raisonnée, il faut que ce soit confortable, il faut surtout que ce soit pas.
On va en rediscuter.
Il faut des bons câbles, etc. C'est du travail.
On va en rediscuter.
Mais c'est un peu dans cette direction-là que je veux aller, et vraiment du filaire, du sans batterie, je pense. Si possible, quelque chose qui permet de régler le volume dessus, parce que c'est quelque chose que je me retrouve à faire beaucoup avec la musique ou avec les podcasts quand mon environnement change, parce qu'encore une fois, je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup, donc mon environnement, aussi bien de son, change beaucoup autour de moi, donc c'est très important de pouvoir régler ça facilement sans avoir à sortir mon téléphone ou à bouger la couronne de mon Apple Watch. C'est quand même beaucoup plus confortable. Pour l'instant, je jongle pas mal avec une paire d'écouteurs in-ears de Sony premier prix achetés à Cambridge l'an dernier qui tiennent toujours le coup. C'est vraiment hyper cheapo, et je sais qu'un jour le câble rendra l'âme ou que l'écouteur lui-même, l'un des deux écouteurs, voire les deux, auront un pet et ne fonctionneront plus comme c'est le cas pour tous les écouteurs. Mais pour l'instant, ça tient le coup. Après, derrière, vraiment, j'aimerais ce casque à la fois pour bosser en même temps pour avoir une bonne expérience son quand je me rends dehors. Et puis en plus, ça me fera les oreilles un peu moins froides quand je vais dehors, donc ce sera tout bénef. Voilà, un bon casque fermé avec un bon câble jack, je pense que ce sera mon futur. Voilà, ça c'est pour mon petit bilan. Maintenant, on passe à toi, mon cher Franck.
Oui, toi, tout à fait.
C'est donc les Surface Headphones que tu as depuis quelques mois, depuis combien de temps?
Ça va faire un an bientôt.
Qu'on te les a envoyés, c'est notre bon ami David Catu.
Oui, ça fait un an à peu près que David me les a envoyés.
David Catu de Microsoft, je tiens à le dire, parce que les Surface Headphones, c'est également de Microsoft. Il ne t'a pas payé pour en dire du bien ou du mal. Non,
au contraire, il me pousse. Il continue à m'envoyer du matos pour que je dise du mal. Non, mais il me dit s'il y a du mal à dire, tu le dis avec son magnifique accent de landais. Je t'embrasse, mon David. Ouais. Parce que c'est. Oui, non, mais il faut. On est des sudistes, on se supporte, même si on est à 17 000 km l'un de l'autre. On se supporte pour le pouvoir du sud-ouest et du foie gras.
Si tu n'existais pas.
Très bien. La SACEM, non, la SACEM, tu restes. Tu restes chez toi, je l'ai juste fredonné la SACEM, je sais que c'est un podcast, mais tu restes chez toi. Alors.
Va voir Jojo et ses bizarres aventures.
Voilà. SACEM, tu te calmes, je sais, tu as envie de soutirer du pognon à tous les podcasteurs, c'est pour ça que t'as lancé ton truc 15 ans après le lancement du média.
Non, on va faire une spéciale, je pense qu'on va faire un bonus Patreon là-dessus. La SACEM vous bait.
Non, on verra ce qu'on fait. Mais toujours est-il, tu nous as souvent parlé, toi, de tes Surface Headphones et tu voulais encore les évoquer aujourd'hui. Pourquoi en parler à nouveau? Qu'est-ce que tu ne nous as pas encore dit à leur sujet, notamment dans l'actu?
Dans l'actu, pas grand-chose, mais c'est un retour après un an et un RMA.
Qu'est-ce que c'est qu'un RMA ? Parce que là, ça sonne un petit peu comme une maladie grave. J'ai fait un RMA. Oh non ! Les mecs, on organise un téléthon.
Zéro blabla RMA.
Pas mal.
Non, un RMA, c'est un retour usine, parce que j'ai dû faire jouer la garantie dessus.
Return to manufacturer ?
C'est ça, return to manufacturer. Un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais reparler du Surface Headphone en lui-même. C'est un très bon casque à annulation du bruit acoustique. Donc, annulation acoustique. Tu as ce petit bruit blanc qui n'est pas gênant pour ma part, du moins sur ce casque-là. Il y a d'autres marques dont je vais parler que j'ai pu tester depuis. Mais du coup, ça me permet d'avoir pas de bruit autour de moi, notamment quand par exemple, le jardinier qui passe sa tondeuse pendant 7 heures d'affilée. Ce genre de choses. Ou la machine à laver qui est en train de tourner et qui est en train de faire secouer la moitié du bâtiment. Ou très simplement juste du bordel dehors parce qu'il y a la vie dehors et j'aime bien me concentrer quand je travaille. Donc niveau qualité son, t'en as parlé, les Surface Headphones sont très bons, le petit programme qui va avec pour régler les différents presets est plutôt propre, il est propre, c'est l'un des rares produits Microsoft qu'on trouve sur Windows Store aussi qui sont réussis, hein, parce qu'on va pas parler de l'application Xbox qui est totalement foirée, on va parler des autres applications, notamment le compagnon, l'application compagnon pour les manettes Elite qui ne fonctionne toujours pas, allez vous faire voir. À 150 balles le pad, c'est cher. Mais du coup, non, j'ai dû faire un retour. Parce que le véritable problème de ces Surface Headphones, c'est qu'ils ont un design qui est très saillant, qui est très plaisant, qui est très sympathique. Mais le problème, c'est que la construction n'est pas du tout solide et elle n'est pas du tout pensée pour être solide et pour être utilisée dans la durée. Et ça, c'est un gros problème quand ton principal argument de vente, c'est allez faire votre footing avec les Surface Headphones, allez faire votre musculation avec vos Surface Headphones, faites tout ce que vous voulez, bougez, sortez avec les Surface Headphones. C'est pas le cas.
C'est vraiment un outil premium d'intérieur, quoi.
Moi, je ne l'utilise au final comme un outil premium d'intérieur ou si je me déplace un petit peu, genre dans le bus, dans le train, quand je marche, ça va. Mais si je dois bouger un peu la tête ou machin, c'est là que les problèmes y commencent. On va commencer par le premier problème. C'est donc un casque à annulation acoustique, c'est un casque sans fil, évidemment, Bluetooth. On va commencer par la connexion Bluetooth. Je ne peux connecter que deux appareils. Ça me rend totalement fou. C'est-à-dire que tu as un appareil principal, évidemment l'appareil secondaire. En l'occurrence, normalement, il connecte mon téléphone d'abord, donc Excelsior. Donc j'ai la voix de Cortana qui fait... Maintenant j'ai la voix de Cortana en français d'ailleurs. Avant j'avais la Cortana en anglais, maintenant j'ai Cortana en français. Cortana, vous êtes connecté à Excelsior. Vous êtes connecté à Hephaestos. Hephaestos, c'est mon PC. Mais le truc... C'est que si tu as un premier truc, même si tu l'as enregistré sur ton Surface Headphone qui reconnaît les connexions, il ne te connecte pas automatiquement, donc le PC, un coup sur deux, je dois le connecter en manuel. Mais quand tu en as un troisième, en l'occurrence l'iPad, là, c'est le problème. Parce que si je connecte l'iPad, mettons, je vais au lit, j'embarque mon téléphone pour avoir le réveil et les alertes, j'embarque mon iPad pour aller mater du Netflix ou lire des mangas, trucs comme ça. Eh ben, j'ai les deux connectés, mais quand je veux me connecter, il faut que je déconnecte l'iPad pour connecter le PC. Donc déjà, la limite de deux appareils, ça me rend totalement fou. Je trouve ça idiot. Pourtant, j'ai fait les mages, mais je sais pas, j'ai deux appareils à chaque fois. Donc ça, c'est un peu dommage. Vraiment, même dommage. À côté de ça, les problèmes de design, c'est purement des problèmes matériels de design, vraiment. C'est-à-dire que bon, j'ai pas une tête extrêmement serrée, j'ai une tête un peu large, il faut le dire, j'ai une tête à chapeau, n'est-ce pas ? J'ai une tête un peu large, et du coup, ben, quand je mets mon casque, je suis très à l'aise. C'est vrai qu'ils sont extrêmement confortables. Le problème, c'est que si je bouge la tête dans un certain angle, le casque va se couper. Parce qu'il a la détection de c'est posé sur la tête, donc je relance la musique. Mais quand t'as une tête un peu large, ben, tu bouges, donc du coup, le casque il bouge un peu, et d'un coup, il te coupe. Donc, par exemple, si t'es en train de faire ta muscu, si t'es en train de ranger des trucs en bougeant la tête à droite à gauche, le casque il va se couper, ce qui est extrêmement désagréable. La détection, donc, elle est pas au point de ce côté-là. Mais ça, je l'ai pas vu de suite parce que au début, moi, si tu veux, quand j'étais sur le bureau, je suis tranquille, j'ai la tête qui bouge pas, je suis devant mon écran, je travaille, je fais mes trucs, j'ai le son qui est nickel, je me régale. Ensuite, le deuxième problème, il est purement un problème de fabrication. Et là, je mets un énorme carton rouge à Microsoft. où dans le design, les mecs ont attaché les chiens avec des saucisses. Pour le coup. Ils n'ont pas attaché les chiens avec des saucisses, pardon. Mm. Qui veut dire qu'ils ont été avares. Ils ont été avares sur les coussinets, qui sont excellents, mais qui ne sont pas cousus, ils sont thermocollés.
Et ça veut dire qu'avec le temps, et notamment avec la chaleur, ça va se détacher.
Avec la Il y a eu la canicule cet été, les deux coussinets ont pété.
Ah, merde.
Les deux coussinets ont pété, ils se sont... et impossible de les recoller, parce qu'il faut les démonter. Alors, les démonter, c'est pas compliqué. Hein. Tu fais un quart de tour, et ils s'enlèvent. Mm. Donc ça, c'est génial. Hein. Le fait de pouvoir
c'est
les enlever...
C'est ce qu'on appelle le démontage Street Fighter, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est un démontage Street Fighter, un quart de tour, et hop, c'est fini. Manque de peau. Il n'existe pas chez Microsoft de quoi racheter des écouteurs. Mm. Donc déjà, c'est ridicule. Parce que donc moi, je me dis, je vais racheter une paire d'écouteurs et puis voilà.
Les pièces détachées n'existent pas, entre guillemets.
Pour l'instant, les pièces détachées n'existent pas, donc il a fallu faire un RMA en partie pour ça. Le deuxième RMA, la deuxième vraie raison du RMA, et là, c'est un véritable problème de design, et c'est un problème d'économie à la fabrication, et je trouve que c'est une erreur, mais ridicule. Ridicule dans le sens idiote, en fait. C'est le headband. Donc, le headband, pour les gens qui ne parlent pas la langue de Britney Spears, c'est le petit bandeau de tête où tu poses ton casque sur le sommet de ton crâne. Mm-hmm. Le choix de Microsoft a été très intelligent de faire un headband en silicone. C'est vachement bien, le silicone, parce que ça te permet de le nettoyer, c'est hypoallergénique, c'est très propre, mm-hmm. si tu veux. Enfin, c'est pas hypoallergénique. Il y a des gens allergiques au silicone et au latex, mais je pense pas que celui-là soit allergène. Mais pour le coup, c'est très, très confortable. À l'intérieur, donc dessus, tu as le headband qui est en plastique aluminium, parce que tu as les deux. T'as une... et le truc, c'est que le headband en silicone, il est fixé par des mâchoires qui sont sur une espèce d'une petite colonne vertébrale avec des dents. Et donc, c'est fixé dedans. Le problème, c'est que c'est trop court et que c'est attaché avec du putain de double face.
Vraiment ?
Oui, il y a du double face à l'intérieur. Mais je le sais parce que le truc, c'est que justement, à force d'avoir ton casque qui appuie sur ta tête et de bouger, ce truc-là, il se met à bailler. Ah. Donc tu vois l'intérieur, tu vois à l'intérieur de ton headband.
Ah, c'est nul, oui.
C'est nul, c'est terrible. Et du coup, il faut essayer de le remettre, mais tu peux pas le remettre avec de la colle parce qu'évidemment, c'est du silicone et les mâchoires en plastique, elles sont particulières. Mmh. Et du coup... il faut réussir. Alors, j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est qu'avec... alors, j'ai plein d'outils, j'ai plein de boîtes de tournevis, de précision, machin. Et tu as des petits onglets qui ressemblent à des médiateurs de guitare, qui sont faits normalement pour ouvrir les tablettes et les portables, tu sais, pour faire sauter les... pour décliqueter les... Voilà, forcer les trucs emboîtés.
Exactement.
Et qui te permet de passer entre et donc de déboîter proprement les tablettes, les téléphones portables, même certaines dalles d'écran, ce genre de trucs.
Pour tous les appareils qui sont, entre guillemets, mécaniquement scellés. Quoi.
Voilà, pour toutes les machines qui sont scellés avec des clips en fait. Donc du coup tu passes ça et tu enfonces très très fort pour que le silicone il retourne dans les mâchoires. Mais il faut le faire, sinon tu le fais avec le pouce, hein. Moi je le fais avec le pouce parce que j'en ai marre de sortir le truc à chaque fois, mais... et du coup j'ai récupéré celui-là, je l'ai récupéré quand j'ai récupéré en fin d'année, j'ai récupéré vers septembre. Il recommence le headband, il recommence à bailler depuis décembre. Donc je suis extrêmement déçu. J'en ai parlé avec David qui était halluciné quand j'ai montré le truc. Il me fait mais c'est pas possible. Je fais si. Si les mecs ils ont merdé sur ce point-là parce qu'ils ont un excellent casque. Vraiment, je trouve que la qualité sonore est très très bonne. L'annulation acoustique est propre. Le design est sympathique. L'aluminium, les plastiques sont propres, ça va. Mais Dieu seul sait pourquoi ils ont été rogner les coups sur le headband qu'aurait mérité donc un peu plus de longueur sur le latex ou un système de fixation un peu différent. Moi, je suis très client du système de fixation de chez Sennheiser, qu'on retrouve notamment chez Beyer Dynamics et Audio Technica dans une forme un peu différente. Mais c'est tout con, c'est que tu as ton headband qui va à l'intérieur de ton arceau avec de la mousse. Bon, là, tu peux le mettre avec un truc de mousse recouvert de silicone. Mais tu le fais glisser donc dans cette glissière interne de l'arceau de tête. Et par-dessus, tu as deux espèces de clapets en plastique que tu vas fixer. Et une fois que tu as fixé ces clapets, le truc ne bougera plus. Quand tu veux le changer, il faut faire sauter ces clapets. Donc, ils vont évidemment s'abîmer quand tu les fais sauter. Mais quand tu achètes un nouveau headband en mousse, ils te donnent les clapets avec. Et ces deux micro-pièces-là, elles te permettent d'avoir une cohésion complète. Et surtout, comme c'est fixé dans une glissière, tu n'as pas de risque de casse. Le seul risque que tu as, c'est la mousse qui est recouverte d'une espèce de sky chez Sennheiser qui va se couper. qui va se couper avec le temps parce que c'est du sky avec le frottement contre ton cuir chevelu, le gras de ton cuir chevelu, la chaleur et le reste, ça va évidemment s'user. Chez Audio Technica, ils ont fait encore plus simple. Eux, ils utilisent carrément un sachet. C'est un sachet qui est fermé avec des clips, des boutons pression, pour être plus précis, et qui englobe complètement le headband. Et quand tu as besoin, bah, tu changes juste ce truc-là. Tu peux même en acheter dans d'autres marques, notamment chez nos amis asiatiques de chez AliExpress. Tu peux acheter des trucs chez Amazon. Hein, mais de toute façon, la moitié des trucs que tu achètes sur Amazon, des trucs comme ça, viennent de chez AliExpress, qui sont expédiés de toute façon de Chine. D'ici à ce qu'ils aient l'entrepôt en Europe, ça réduira pas forcément la taxe carbone, mais ça passe par le train, c'est déjà ça. Voilà. Et du coup, bah, je suis un peu embêté avec ce casque que j'aime énormément, mais qui ne cesse de me décevoir parce que c'est des petites failles pour un prix qui était très élevé au départ. Parce que c'est un casque qui coûtait entre 359 et 399 dollars.
Alors,
à la sortie.
Tu nous as déjà parlé du problème de synchronisation de la deux appareils, mais de manière générale, est-ce que tu as remarqué des différences entre le moment où tu l'utilises avec des appareils Microsoft et le moment où tu l'utilises avec des appareils Apple, vu que maintenant tu possèdes les deux?
J'ai trois connexions différentes. C'est-à-dire que quatre. C'est-à-dire que je me connecte à mon iPhone en Bluetooth, mon iPad en Bluetooth, je me connecte au PC parce que j'ai un dongle en Bluetooth, et de temps en temps, évidemment, il faut le charger, je vais parler de la batterie après. Je me connecte en USB-C au PC via mon écran pour le charger. Le son n'est pas le même entre l'iPhone, l'iPad et le PC.
D'accord.
J'ai l'impression, du moins je pense que c'est mon récepteur Bluetooth PC qui est différent. Le son n'est pas tout à fait le même entre les trois bécanes.
D'accord.
Je le trouve étrangement un peu plus chaud sur l'iPhone, un peu plus clair sur l'iPad. Est beaucoup plus clair sur le PC.
Après, dans tous les cas, il y a un égaliseur sur les différents OS.
Il y a un égaliseur. Je n'ai pas fait l'égalisation sur PC parce que j'utilise les réglages de base actuellement. Parce que je voulais revenir voir ce que ça donnait en réglage de base. Et en ce moment, j'ai des problèmes de réglage de carte son. Même sur mon casque, le casque que j'ai sur la tête, mon 380 Pro, j'ai dû re-régler l'égaliseur dans ma carte son parce que je trouvais qu'avec les nouveaux drivers et la mise à jour, j'avais plus de basse en fait. Donc je me rajoute un peu de basse. Il y a des petites différences. Après, avec les produits Apple, niveau connexion, il n'y a aucun problème. Je veux dire, mon iPhone l'a reconnu immédiatement. Il le reconnaît tout le temps. J'ai pas de perte de connexion. J'ai plus de perte de connexion avec Windows qu'avec... je pense que c'est lié à mon dongle. Je pense que c'est plus lié au dongle Bluetooth qui est un tout petit micro USB, enfin mini USB, tu vois, USB-A, petit dongle, mais que j'ai foutu derrière mon écran qui m'a coûté peut-être 10 balles. Je pense que le problème vient plus de mon dongle que du PC en lui-même ou que de Windows en lui-même. Mais il est vrai que le fait de ne pas pouvoir connecter trois machines ou quatre machines en même temps, c'est quand même assez relou. Surtout quand c'est les trois seules machines ou quatre seules machines que je vais utiliser. Pareil, si je veux me brancher sur le Surface Laptop ou la Surface Pro, il faut que je déconnecte les autres. Parce qu'il il va pas écraser, si tu veux, l'ancienne connexion.
On te l'aurait pas offert, tu l'aurais acheté?
Non, j'aurais pas pris ce modèle-là, clairement pas.
D'accord.
Pourquoi? Parce que beaucoup trop cher pour un marché français qui est... c'est un Surface Headphones à la sortie. On en trouve... aujourd'hui, ils ont baissé. On les trouve à 259 euros. C'était pas le cas il y a un an quand ils sont sortis, où ils étaient plus de 100 euros de plus. Il y a des trucs un peu compliqués au niveau de l'autonomie, par exemple l'autonomie qui est fait un peu faiblarde parce qu'ils ont voulu à tout prix rajouter Cortana. Et Cortana elle seule, elle est tout le temps connectée sur le Windows Phone.
Ça a une influence claire sur la batterie.
C'est 10 heures de batterie qui dégage, donc t'as 15 heures d'autonomie.
Zut.
T'as 15 heures d'autonomie au lieu de 25. Donc déjà, ça c'est...
Et Cortana, elle est également là quand tu utilises un appareil qui n'est pas un appareil Microsoft?
Non, quand je dis si j'invoque Siri via mon Surface Headphones, c'est mon téléphone qui va me répondre.
Très bien.
Mais Cortana, par contre... Ah oui, ça c'est un autre truc. Cortana a tendance à se déclencher n'importe quand. Ça, elle me rend fou. C'est-à-dire que tu vas tourner la tête, ça va frôler un peu ton épaule, boum, elle se déclenche. Du coup, tu m'emmerdes. Après, au niveau des performances sonores en utilisation passive, parce qu'il y a une prise jack quand même, il faut le dire, il y a une prise jack pour te permettre de l'utiliser comme un casque jack classique. Donc, j'utilise sur mon lecteur MP3 quand j'ai envie de temps en temps ou quand je suis dehors. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Par contre, voilà, la réduction de bruit est vraiment efficace sur les voix. L'isolation, j'en suis très très content. Les commandes tactiles, tu parlais des commandes tactiles sur les AirPods. Mm-hmm. Les commandes tactiles pour les appels, avant, morceau suivant, morceau précédent, play, pause.
Qui se font avec le doigt, hein, si je me souviens bien, sur la grande surface.
Tu peux
surface.
Le faire avec la main, en fait. Tu as les deux côtés, tu as les deux D'accord. côtés disponibles. Tu peux taper avec un doigt, deux doigts, trois doigts. Tu peux taper avec la paume de ta main, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne extrêmement bien. Pareil pour ces trois coups pour décrocher, trois coups pour accrocher, c'est pas un souci. Niveau confort d'appel à recevoir, c'est très bien. Confort d'appel, ça dépend pour les gens qui écoutent. La voix est pas toujours bien reçue apparemment.
Tu m'as toujours dit du bien de mes AirPods, ceci dit.
Tes AirPods ont un très bon son, on est d'accord. Tes AirPods ont un très bon son. Moi, je pense que des fois, c'est un peu particulier. Je suppose parce que je suis aussi à l'intérieur où il y a pas mal d'écho. Après la capture des micros quand il y a pas trop de bruit, c'est nickel. Hein. Et une fois que c'est égalisé, une fois que t'as réglé un peu toi ton égalisation pour avoir un son qui te plaît, on va dire. Parce que évidemment, moi j'ai l'habitude d'écouter un casque en flat, mais j'aime bien aussi égaliser de temps en temps parce que on n'a pas tous la même oreille et on achète du son pour faire du confort. Donc évidemment, il y a des puristes qui vont te dire il faut écouter le morceau tel qu'il a été mixé et tout. Fuck it, si je trouve que le morceau il est sous-mixé ou surmixé avec trop de basses ou pas assez de basses, je vais régler ça moi-même. Parce que le principal, c'est que j'apprécie l'artiste, pas forcément toujours le travail de mixage où je suis pas d'accord avec. Après, c'est un bon casque avec une bonne restitution sonore en général. Il est pas extrêmement lourd, il fait 200... Je crois qu'il fait 300 grammes. 290-300 grammes, tu vois. Il est sorti en France. Il est sorti en France l'an dernier, en mars. Je l'ai eu un peu avant. Je l'ai eu deux mois avant. Je l'ai eu en janvier l'an dernier. Et comme je disais, le prix à 379 € l'an dernier, je l'aurais jamais acheté. Aujourd'hui, à 259, il est placé face à des casques qui sont très haut de gamme, voire haut de gamme. Il est aujourd'hui 10 € moins cher que le Bose QuietComfort 35, le QC35-2. Qui est son concurrent direct, j'ai envie de dire, parce que c'est le concurrent direct de tout le monde. On pourrait parler du Sony MDR-X, MX-3000, quelque chose comme ça, le MDR-X.
Ces noms de produits font aucun sens.
Oui, non, mais voilà, le Quiet Comfort, le QC35, tu sais que c'est Bose. Le MDR-X 3000, voilà, c'est Sony, mais c'est le Sony est très sympa, il est plus pour un truc d'intérieur. Je pense que si je devais changer, je partirais soit sur un Sennheiser 450 BT, donc 450 Bluetooth. Le 440, on en avait, je crois que c'est notre auditrice Red qui m'avait demandé pour le 450 BT qu'il avait chopé à 79 ou 99 €. Je partirais sur peut-être un truc moins cher comme celui-là, qui a une très bonne restitution sonore aussi, hein, qui est pas ouf en extérieur. Après, voilà, t'as des petits artefacts sur le Bluetooth aussi chez l'autre. Après, derrière, est-ce que j'aurais pris un QC35? Certainement pas, parce que l'an dernier, c'était pas dans mes...
Comment dire?
Dans mes priorités. Là, maintenant que j'ai goûté au confort du sans fil et tout, je pense que oui, je pourrais craquer pour un QC35 et j'aurais fini par craquer pour un QC35 à la place de Surface Headphones. Qui propose un champ à peu près similaire. Qui a un peu plus de basse. Après, le truc qui avait été relevé plusieurs fois, je pense notamment au numérique et à MKBHD, c'est-à-dire Marcus Brownlee, qui est voilà, ce YouTuber américain, qui est très doué, qui est très très bon sur tout ce qui est audiophilie et mobile. Le QC35 a beaucoup de latence en Bluetooth.
D'accord.
Mais bon, la latence Bluetooth, on sait de toute façon que le Bluetooth, c'est de la merde. Il faut bien dire, je crois que c'est le pire moyen de transport par onde. Le Wi-Fi, c'est vachement bien, le Bluetooth, c'est quand même assez caca. Donc du coup, c'est ça. Le Sony, c'est le WH-1000XM3, qui est encore aujourd'hui dans les 300 €. C'est le 1000XM3. Je vous dis jamais, c'est MDR. Avant, c'était les MDR, c'est les formats d'intérieur. Et les nouveaux, c'est les 1000XM3, qui sont très bien, mais qui sont beaucoup plus chers, si tu veux, pour certains. Là, c'est en train de baisser. Ils sont en train de s'égaliser les uns les autres au fur et à mesure. Mais j'achèterai pas du Sony.
Bien.
Parce que j'ai une mauvaise expérience pendant des années avec Sony, c'est pas assez solide.
Ok.
Donc ce serait un Bose.
Dernière question, est-ce que pour toi, ne pas avoir de câble vaut les autres trade-offs, les autres compromis ?
Alors, j'aime bien le fait de ne pas avoir de câble, mais c'est pas l'avantage principal, en fait, d'un casque comme ça. Le vrai, véritable avantage que tu trouves pas forcément parce que t'as pas beaucoup de casques filaires avec annulation acoustique, c'est vraiment ça, c'est cette foutue annulation acoustique.
Okay.
Moi, j'ai des casques, je ne porte que des casques fermés. Pour nos auditeurs qui savent pas ce que c'est, il existe ouvert, semi-ouvert, fermé, semi-fermé. Un casque ouvert, c'est ce qu'on appelle souvent un casque audiophile qui va laisser passer les bruits extérieurs à l'intérieur, qui va laisser sortir les bruits de votre casque à travers les mousses, donc les gens autour de vous, si vous écoutez fort, vont entendre. Mais c'est des casques qui ont une meilleure retransmission sonore et une meilleure plage dynamique, on va dire, au niveau du son. Donc pour les audiophiles, c'est le casque que... Bah, toi, tu le connais, Yann, je vais te parler du 598 Sennheiser d'Aspic.
Oui, oui.
Le casque Bordeaux et beige, voilà, qu'on lui avait fait racheter. C'est son casque de travail, souvent. Ça, c'est un casque ouvert, c'est un casque audiophile. Moi, j'aime les casques fermés, c'est-à-dire que les sons, les bruits sont atténués par les mousses épaisses du casque. Donc, le casque ne fuite pas à l'extérieur, ce qui est déjà vachement bien. Et moi, j'ai les sons qui sont atténués de l'extérieur. Et ça, c'est vachement bien. Donc, déjà, j'ai cette atténuation-là qui est matérielle, qui est physique, qui n'est pas logistique, logiciel, pardon. L'annulation écho-acoustique, j'en ai besoin à l'annulation acoustique. C'est aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que les jours où j'ai mal à la tête, où je suis de mauvais poil, ce qui arrive pas mal en ce moment, avec le stress, j'ai besoin d'avoir du silence. Et je n'ai pas de silence parce que j'entends ma foutue VMC, parce qu'il y a la machine qui démarre, parce qu'il y a le chat qui fait teinter sa cloche pour la 96e fois parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'on ne lui a pas changé son assiette alors qu'elle a bouffé il y a une heure. Parce qu'elle est capricieuse, parce que il y a une tondeuse à gazon qui est là depuis 3 heures et que j'en ai ras le cul, que j'ai envie de descendre et lui faire bouffer sa tondeuse. Ça, j'en ai besoin.
Bien.
Mais c'est le trade-off du câble. Pour moi, c'est pas important parce que je me suis trimballé avec des gros casques audio en général. Le câble, je vais le passer. Par exemple, si je suis dans le métro et que j'ai un câble, je vais le passer carrément dans mon t-shirt.
Oui, ça m'arrive aussi de faire ça.
Donc, si j'ai une écharpe ou machin, le câble va pas me déranger et j'ai pas de risque de le perdre quand j'ai un câble aussi.
Ouais.
Donc, moi, c'est pas vraiment un problème.
Bien.
Mais la question que je me pose, c'est justement parce que toi, tu es passé en AirPod. Et pour toi, du coup, toi, ça te manque tout ça ?
Le sans fil, est-ce que ça va me manquer quand j'aurai plus mes AirPods, quand ils seront définitivement
morts ? Est-ce que tu vas prendre des pros ? Parce qu'on en avait discuté.
Non, encore une fois, moi, ce qu'il y a dans mon horizon, c'est vraiment un bon casque fermé qui me sert à la fois en condition studio pour pouvoir faire des podcasts, les monter, les mixer correctement, et en plus pour pouvoir entendre ma musique, entendre mes podcasts, entendre mes vidéos, jouer à mes jeux sur Switch confortablement quand
et
je suis
dehors.
À l'extérieur. Voilà,
du
c'est
coup,
ça.
C'est vraiment, t'as besoin pour l'intérieur et l'extérieur.
J'ai besoin, et ce casque-là devra servir les deux. C'est pour ça que ça me prendra du temps, parce que ce sera un achat qui, je pense, sera cher. Pour beaucoup de choses. Non, mais quand je dis cher, c'est plus de 50 balles, quoi.
Ah oui, non, mais 50 balles, c'est pas cher.
L'argent.
Non, mais ce que tu peux faire le trade-off que beaucoup d'amis ont fait, c'est qu'ils ont des gros casques à la maison et un casque pour se trimballer, un casque filaire, un casque qui marche énormément et qui a pas un mauvais rendu sonore et qui est solide pour le coup. Et tu peux changer le câble, c'est les casques Marshall.
D'accord.
Les mini casques Marshall, ça coûte, je crois, dans les 50 balles. Marshall, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grande marque d'ampli pour la musique, hein, d'ampli d'instruments. Et ils font des casques, j'ai pas mal d'amis qui en ont. J'ai failli en acheter un. Et au final, j'avais pris de la merde. J'avais pris un casque AKG qui est mort en 3 semaines.
Mais
et tu
dommage.
Vois, tu peux trouver un casque, un Major 3, tu peux en trouver pour 59 euros. Et il a un bon son. Il suffit pour se trimballer, se voyager. Il est très petit, il se range bien, et à côté de ça, bon, évidemment, il faut que tu aies ce foutu adaptateur jack to lightning, évidemment, pour ton iPhone. Mais après, pour 59 euros, tu peux trouver, là, il est sur Amazon en France, à 59 euros avec un bon câble de la distance, et ça peut te permettre d'avoir quelque chose que tu trimbales toujours dans ton sac, et après, plutôt que de dépenser 230 euros dans un casque sans fil qui fera tout, mais qui sera sans fil, donc qui sera moins bien sur tes PC, parfois, pour mixer, tu peux te prendre un bon casque d'ingé son, genre un DT770 à 115€ chez Thomann.
On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose de définitif. Bon.
Je vais te faire dépenser de la maille.
On verra. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Ce dossier est terminé. On passe au courrier et au suivi. Courrier d'abord, mais c'est un courrier de suivi. Haha, la bonne surprise, c'est Nelson qui nous écrit. Et qui nous dit « Hello, Yann et Franck, j'ai écouté votre dernier épisode et j'ai vraiment adoré votre intervention sur ma config PC. Ça faisait longtemps que j'avais parié aux larmes pour répondre un peu à vos questions. Oui, vous êtes bloqué en Chine et le VPN est de rigueur pour vous entendre. Je pense que si une envie de voyage vous prend, il faudra éviter l'empire du milieu. On va en tôle pour moins que ça. Merci. »
C'est vrai.
C'est vrai. Et voilà, bah tant pis. Merci
pour votre... pour Alvin.
Merci pour votre réponse et la bonne tranche de rigolade. À bientôt. Également, un courrier, c'est un autre courrier de suivi, c'est Ubi qui nous écrit, qui nous dit « Bonjour messieurs, je voudrais vous remercier pour votre émission avec le rendez-vous tech de Patrick et Tech Café de Guillaume. Et Guillaume, vous faites partie du triptyque de podcast tech dont je ne rate aucun numéro. » Merci beaucoup Ubi.
Merci.
Je souhaitais apporter quelques détails concernant les sujets du Razer Tomahawk et du Nuke Ghost Canyon. Vous les opposez lors de votre présentation alors qu'en fait, il s'agit du même projet. Les Nuke Elements sont en fait des gros, sont en gros des PC avec un port PCIe mâle à insérer dans un boîtier Razer ou Intel. Mais aussi Asus et probablement d'autres équipementiers. Tech Jesus en a fait une vidéo d'ailleurs.
Donc Steve Burke. Steve voilà, Burke et Jesus vidéo. De chez Gamer Nexus. Qui est, aussi, qui est le digne héritier de Terraboule.
Aussi, Ubi continue son mail. Je voulais juste ajouter une petite info à votre dossier finance. Yann avait évoqué Apple Pay et vous aviez rapidement parlé du fait que les banques étaient frileuses avec Android Pay et aussi avec Apple Pay d'ailleurs, en parenthèse. Hein.
Oui, c'est principalement, bizarrement.
C'est principalement parce qu'elles ont leur propre solution. Voilà, c'est exactement pour ça. C'est ce que j'avais dit par rapport à la Suisse qui a Twint et où Apple Pay et Android Pay, du coup, en ont pris un petit peu dans les dents. Paylib sans compte. Contact. Pratiquement toutes les banques françaises ont investi dans Paylib et elles le proposent dans leur app avec leur paiement sans contact sur les téléphones Android qui font NFC. Ça fait 3 ans que je l'utilise maintenant. Les seuls marchands chez qui ça ne marche pas sont ceux dont le sans contact des cartes bancaires ne marche pas. Voilà, à plus. Alors, pour ajouter un petit mot là-dessus, mon cher Ubi, oui, et c'est pas vraiment exploitable par du coup les téléphones Apple. Apple décide de limiter ça, cet usage-là de l'aspect NFC qui est du coup réservé à Apple Pay. Donc ouais, c'est Apple Pay ou la mort.
Et d'ailleurs en France, il y a un truc que je voudrais souligner, c'est que j'ai vu passer des publicités. Moi qui regarde pas beaucoup la télé, elle est allumée le soir en mangeant souvent. Puisque ma maman regarde Plus belle la vie et personne n'est parfait. Je suis au fait
on
de Plus belle la vie.
On est vraiment bien. Non, c'est quoi, c'est ça?
Sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. J'aime pas spécialement Plus belle la vie, mais j'aime bien le fait que ce générique soit dans ta tête alors que tu es suisse.
Mais écoute, alors déjà, c'est évidemment diffusé sur la télévision suisse, en tout cas ça l'était à une époque. J'ai jamais regardé que ce soit sur l'un ou sur l'autre, mais j'ai déjà entendu le générique et je suis quelqu'un qui m'intéresse à l'actualité des médias, donc nécessairement. Et puis je crois que c'est une production Newen. Qui appartient maintenant à TF1, dont le bras web s'appelle NewWeb, qui édite notamment Gamekult. Pour lequel tu as travaillé et je travaille toujours. Donc c'est j'ai envie de te dire, je suis un petit peu...
On est des personnages de Plus belle la vie.
Blueprint, produit pour Gamekult, une émission qui est cousine de Plus belle la vie. Donc on est tous collègues, j'ai envie de te dire. On est vraiment rien. Voilà,
oh,
très bien,
merde.
Je t'en prie.
Je veux faire de la figuration.
Moi, je veux venir au pot de Newen et de NewWeb pour aller serrer la main au producteur de Plus belle la vie en disant, regarde, je suis producteur de Presse Occulte. On est frères.
On est frères.
Voilà. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour 2020.
Le 2020 d'une autre chill. J'ai envie
Pouillot.
De te dire.
Réponds à ton téléphone. Pouillot. J'ai des propositions pour toi, notamment celle-ci.
Vers les donos. Vers
c'est
les
ça.
Donos. On
c'est
se
ça.
Verra en fin d'année pour les 20 ans de Game Cult. On parlera
on
business.
Vous aime.
On va produire un plus bel la vie jeu vidéal.
On vous aime.
Bon. Pipo la vie. On fera une série Pipo la vie.
Bien
c'est
sûr.
Parfait.
Tu voulais réagir en
oui,
général.
Je voulais réagir, donc tu ouais, m'as ouais. flingué mon cerveau.
C'est pas grave.
C'est pas grave, d'habitude c'est moi. Du coup, oui, j'ai vu des publicités passer de la part de certaines banques. Alors, j'ai pas retenu la banque, hein, parce que les banques et moi, c'est un peu comme l'eau et le feu, ça va pas ensemble. Mais du coup, ils font « Hey, regardez, chez nous, vous pouvez utiliser Apple Pay. » J'étais là « Hein ?» Parce que une banque n'a pas besoin de dire « Hey, regardez, on utilise Apple Pay. » Pour utiliser Apple Pay, tu rentres ta carte de crédit dans ton wallet ou dans Apple. Tu configures Apple Pay sur ton iPhone.
Mais il faut que la banque qui édite ça l'ait autorisé.
Ah oui, en tout cas, ma banque l'avait autorisé de base. Parce que moi, j'ai rentré ma carte bleue, j'ai une Visa.
Eh ben, c'est pas donné pour tout le monde.
Bah, c'est... Et du coup, leur argument de vente, c'est hey, les mecs, venez, on a Apple Pay.
Ouais,
et j'étais là, mais vous avez combien d'années de retard, les enfants ?
Ah, ça. Mais ça, c'est une bataille pour le contrôle, justement, de cette industrie. Et je dis pas que Apple est le good guy ou Android soit le good guy dans cette affaire. Hein.
C'est certainement c'est... pas la banque. Hein.
Pas les banques non plus, non.
Ah, les banques, non. C'est impossible qu'une
banque soit
good
guy. Je pense que tout le monde a des choses à se reprocher dans, dans cette industrie-là, tu sais. Mais ça,
pas les clients.
Pas les clients. Bah, encore que, hein. Encore que.
Carlos, tu nous regardes, magnifique, formidable.
On va encore. Non, lui, c'est l'automobile. Donc.
Ah, c'est les banques aussi. Oh, c'est les banques.
On va se faire beaucoup d'amis encore aujourd'hui.
On fera de l'argent en Suisse.
Pour nous écrire, c'est @tech2bp et tech2@theblueprint.pm. On salue toutes les personnes qui travaillent dans les banques et qui sont dégoûtées par ce qu'on vient de dire.
Et c'est la fin de cet épisode de Tech2. Merci à vous de nous avoir écoutés, de l'avoir écouté avec nous. Tech2, c'est une émission produite et réalisée par Blueprint, blueprint.pm.
Oui.
Je voudrais te dire un grand merci à Julien Bro pour le logo, notre ami Benji Pesque pour l'habillage sonore. Alors évidemment, on peut retrouver Yann sur Twitter, on va te retrouver @inkshd.
Exactement, toi on te retrouve Franck sur les internets @foxmonsieur sur Twitter.
Tout à fait.
En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode de Tech2. Vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de l'émission autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode. D'ici là, passez 2 très bonnes semaines justement. À bientôt, ciao ciao.
Ciao.
But it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.